le prix de notre condamnation. Mais le chrétien doit continuer à faire face à la lutte contre le péché dans sa vie. Ça, c'est le cas. La Bible est très réaliste par rapport à nous, chrétiens que nous sommes. Peut-être ce matin, vous voyez l'un ou l'autre frère, même ici présent dans ce bâtiment avec vous, et vous avez des liens avec cette personne en dehors du cadre sympa de l'église de dimanche matin. Et vous vous demandez dans votre propre cœur, comment cela fait-il qu'une telle personne ose être ici à l'église le dimanche matin? Vous êtes gêné d'apprendre des faiblesses des autres, n'est-ce pas? Et Dieu lui-même, chef de l'église, il n'est pas aveugle à cette réalité. Il se sert donc de sa parole pour avertir la personne qui écoute la parole le dimanche matin ou à un autre moment de la semaine, mais qui ne le met pas en pratique. Voyons cela donc dans notre texte que nous avons lu, à partir du verset 21, si tu veux bien, cher Boris. « C'est pourquoi, dit Jacques, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Donc ici, « accueillir » ne signifie pas « croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Non, ici, « accueillir » signifie que la parole implantée en nous par la bonne nouvelle de Christ doit prendre racine en nous à un point que cette parole nous transforme. Et cela demande, selon ce verset, le rejet de toute souillure et de tout débordement. Oui, tel est le péché que c'est comme une bataille qui a lieu sur plusieurs fronts. C'est le cas, n'est-ce pas, pour certaines batailles. Tu mènes la bataille sur un front, et le voilà, un autre front s'ouvre. Et c'est fatigant, penser déjà mener le combat ici, maintenant on trouve qu'on doit aussi se combattre ici. C'est fatigant cela, n'est-ce pas? Mais nous devons être réalistes. Accueillir, selon ce verset, avec douceur, avec humilité, la parole, c'est de reconnaître que notre cœur doit continuer à s'ouvrir à l'œuvre de la parole transformatrice de Dieu. C'est de reconnaître que Jésus-Christ est mon maître et que ce que lui, il dit, a l'autorité sur moi, quoi que moi je pense là-dessus, même lorsque cela me gêne. Et donc au verset 22, Jacques explicite ce qu'il veut dire par accueillir, n'est-ce pas? Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien sûr, ça implique que nous devons connaître la parole pour être capable de mettre la parole en pratique, ça c'est vrai. Mais ici, l'accent tombe non pas sur connaître cette parole, mais sur la mise en pratique de la parole. Donc nous n'allons pas tarder ce matin avec une exhortation à chacun de mieux connaître la parole, même si cela est une condition préalable pour sa mise en pratique. Non, Jacques, ici, vise ceux qui connaissent la parole, mais toutefois ont du mal à la mettre en pratique. Écouter sans mettre en pratique la parole, c'est de se tromper, selon ce verset 22. Se faire des illusions par rapport à l'état de notre âme devant Dieu. C'est de se croire, oui, moi et Dieu, on est bon, il n'y a pas de souci. Sans que cela soit le cas, en réalité. Et je pense donc que l'église de Woluwe, Saint-Lambert, la nôtre, doit porter une attention toute particulière à ce que Jacques dit. Car nous aspirons, je pense bien, être une église où les uns et les autres connaissent bien la parole de Dieu. Nous pratiquons ce qu'on appelle la prédication textuelle. C'est-à-dire, on essaie de prêcher un passage de la Bible après un autre passage et on continue dans des livres bibliques de cette manière-là. Pourquoi? Parce que nous avons une haute estime de la parole de Dieu. Nous étudions la parole de Dieu en semaine, lors de nos réunions en petits groupes. Nous avons donc cette haute estime de ce que la Bible dit. Mais mettons-nous la parole en pratique. Et dans le temps qui nous reste, alors j'aimerais que nous voyons deux choses ensemble. Deux choses ensemble. Vous voyez ça sur le dos de votre feuille. Pourquoi devons-nous accueillir la parole? Et ensuite, comment? Comment l'accueillir? D'abord, donc, pourquoi l'accueillir? Écouter la parole sans la mettre en pratique, c'est comme, dit Jacques à partir du verset 23, un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. C'est drôle, n'est-ce pas, de penser qu'un miroir, c'est l'un des seuls articles de toilette qui n'a pas beaucoup changé depuis l'époque du Nouveau Testament. Évidemment, les nôtres sont un peu plus développés, je dirais, mais le principe reste le même encore aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qui vous arrive lorsque vous regardez dans le miroir. Pour moi, vous avez tous l'air beau, je dirais, ce matin. Mais justement, c'est parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà regardé dans le miroir, n'est-ce pas? Même ce matin. Certains auraient vu une petite imperfection sur le visage, et donc auraient cherché un peu de maquillage, ça, apparemment ça se fait. D'autres auraient vu peut-être des cheveux un peu gras, et en conséquence auraient pris une douche ce matin. D'autres auraient vu peut-être un peu de crème de rasage qui se trouvait en dessous de l'oreille, c'était mon cas ce matin, et donc ensuite on fait le nécessaire pour l'enlever. C'est normal. Dans tous les cas, oublier ce que nous avons vu dans le miroir, et se présenter pour la journée avec l'équivalent d'une crotte de nez sur le visage, si vous permettez que je le dise. Ce serait, oui, dégoûtant, insensé, bête de faire cela, n'est-ce pas? De même dans la vie chrétienne. Se présenter tout fier au culte le dimanche matin, sans mettre en pratique la parole de Dieu, c'est aussi bête que cela. C'est ridicule. Et pourtant, c'est bien ce que bien trop d'entre nous, nous essayons de faire. Mais la deuxième raison que Jacques nous fournit pour mettre en pratique la parole, deuxième raison qu'il évoque ici, c'est que la parole a pour but de transformer le cœur humain. La parole existe pour cela. Peut-être vous vous êtes demandé pourquoi je suis monté avec celui-ci. Alors ici, un cadeau d'un baffle, parfait, ok, un baffle de mon épouse qu'elle a fait pour toute la famille Orange à Noël et pour le Nouvel An. On avait reçu ce cadeau en disant, ok, merci chérie, mais je pense qu'on avait déjà des baffles qui étaient assez utiles. Et puis, en jouant un peu avec ce cadeau, on se rendait compte qu'il fallait faire ceci. Giovanna, tu veux juste bien éteindre la lumière derrière toi? Juste dans le coin, voilà, super, là. Et donc, ça fait, avec de la musique, on se connecte avec le téléphone et ça fait karaoké. Okay? Et on a joué ça en famille. Heureusement, personne ne m'avait enregistré sur vidéo. Et donc, c'était très sympa. Alors, pourquoi je vous parle de ce baffle? Donc, en tant que tel, ce baffle pourrait être juste là, sur l'étagère. Mais la fonction de ce baffle, c'est qu'il doit être connecté à la musique, à notre GSM, et doit être allumé pour qu'on découvre la raison pour laquelle elle a été fabriquée. Le baffle a pour fonction d'être connecté, utilisé pour la danse. Mais la parole de Dieu doit être aussi connectée, si vous voulez qu'on le dise comme ça. Mais connectée dans notre vie, en pratique. Elle n'est pas faite pour être loue ou écoutée de manière passive, comme nous le faisons actuellement. Mais en elle-même, elle contient la puissance pour nous transformer. Elle est faite pour ça. Elle existe pour ça. Et déjà au verset 21, l'expression « la parole qui a été plantée en vous » évoque l'attente d'un fruit, n'est-ce pas, que cette parole portera. Jésus, dans la parabole du semeur, peut-être on se souvient de ça, donnait la même attente. La parole qui tombe dans la bonne terre produira du fruit. Oui, elle est faite pour ça. Mais je pense que le verset 25, si on peut arriver là, Boris, ajoute une couche pour nous. Car Jacques parle de plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi de Dieu dans l'Ancien Testament, donnée à Moïse, même si en elle-même cette loi est bonne, la loi de Moïse en tant que telle condamne l'homme. Parce que la loi confirme que l'homme est bel et bien pécheur, qu'il n'arrive pas par ses propres moyens à obéir à cette loi. L'homme, non, transgresse la loi. L'homme désobéit à la loi. Mais ensuite, Jésus, Christ, est venu. Lui qui obéissait à la loi parfaitement. Et il a accompli donc cette loi et ses exigences. Et donc, la loi de Dieu donnée à Moïse vise un moment où par l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en nous, nous pouvons nous pratiquer la loi. La loi maintenant qu'on appelle la loi de Christ. La loi grâce à Jésus menée à son accomplissement. La loi donc, comme Jacques le dit, parfaite. La loi de la liberté. Et le prophète Jérémie envisageait un jour lorsque une nouvelle alliance arrivera, un nouvel accord que Dieu fera avec son peuple. Et il disait ceci au chapitre 31 de sa prophétie, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. » Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Être chrétien, c'est être membre de cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Bénéficier donc des promesses de Dieu. Et donc la parole de Dieu, la loi de Dieu est destinée à être écrite, non pas ultimement sur des tablettes de pierre avec de l'encre, mais à être écrite sur le cœur humain, et cela par l'Esprit de Dieu. La personne donc, fin du verset 25, qui fait cela est heureux dans son activité, il dit. Béni par Dieu, béni quand nous attendons le salut du dernier jour, car une telle foi authentique, déjà qui dépend des promesses de Dieu, qui accueille la bonne nouvelle de Christ de manière à ce que cette parole nous transforme, cette fois-là, fin du verset 21, nous sauvera. Oui, nous sommes sauvés maintenant dans un sens, mais nous serons aussi futurs, sauvés, délivrés de la mort et du péché, lors du retour de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi nous devons accueillir la parole, la mettre en pratique. Elle est faite pour ça. Alors, deuxième partie, comment l'accueillir? Comment l'accueillir? C'est ça, cette question-là, Jacques, il va développer ses réponses tout au long des chapitres à venir. Mais en pratique, cela signifie trois domaines pour ce matin. Trois domaines qu'il évoque dans ce chapitre 1. D'abord, au verset 26. « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. » Dans le premier domaine, c'est en bridant notre langue. C'est-à-dire, tu peux te proclamer adorateur de Dieu avec ta langue, ici le dimanche matin, mais si tu ne tiens pas cette même langue en bride, ta religion est sans valeur, nous dit le Seigneur. Brider, c'est ce que nous avons vu déjà le réveillon du Nouvel An en étudiant quelques proverbes, si on se souvient de cela, n'est-ce pas ? Brider vient de la bride que nous mettons dans la bouche d'un cheval. Tenir un cheval en bride, c'est de ne pas lui donner la possibilité d'aller jusqu'au bout de ses capacités. C'est de limiter sa vitesse. Et de même, brider notre langue, c'est de la limiter, la contenir, c'est de diminuer mon ego et plutôt suivre la volonté de mon maître, en écoutant le Seigneur, en écoutant des autres. Et je pense que les premiers versets de notre texte, à partir du verset 19, parlent de cela également. Verset 19. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Jacques, je pense, en grande partie, s'adresse ici à des relations entre croyants. Il leur dit qu'ils doivent bien écouter l'un l'autre, au lieu de trop vite s'énerver dans leurs relations. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors arrêtons là. Non, la colère, c'est souvent, pas exclusivement, mais souvent, un moyen de manipuler l'autre pour que l'autre se plie à notre point de vue. La colère, c'est de dire que je ne fais plus confiance à ce que Dieu est capable d'utiliser mes propos pour convaincre et raisonner avec l'autre. Mais c'est de dire que je dois maintenant insister sur ma volonté en élevant ma voix. Ce n'est pas beau à voir, mes amis, la colère. J'en suis conscient en tant que quelqu'un qui sait ce que c'est, qui lutte aussi avec cela. Non, Jacques dit, au lieu de se fâcher, au lieu donc de manipuler les autres, faisons un effort réel d'écouter, de comprendre, de peser ce que les autres disent. Commencer à crier à l'autre provoque des réactions défensives ou bien agressives de retour. Et au lieu de trouver donc une solution, on crée plus de dégâts avec une telle approche. Mais chaque fois qu'il y a un différend entre nous, même dans l'Église, ce danger se soulève. Comment allons-nous, par exemple, nous mettre d'accord sur ce test de deux cultes? On aura des avis différents par rapport à ce que nous faisons, n'est-ce pas? D'abord, écoutons les autres. Ne jouons pas trop tôt la carte « Ah, pour moi, c'est comme ça !» Point. Hein? Ça coupe la discussion et la réflexion. Donc, comprendre le raisonnement de l'autre. Bridons notre langue. Nous avons eu trop d'histoires où un soi-disant homme de Dieu se fâche. Même au sein de cette église-ci, c'est enfantin, mes amis, de réagir comme ça. C'est comme un bébé qui jette ses jouets quand il n'a pas ce qu'il veut. Bridons notre langue. Mettre en pratique la parole implique le contrôle de soi dans notre façon de parler. Le deuxième domaine, et celui-ci reviendra également plus tard dans l'épître de Jacques, c'est de prendre en charge les personnes les plus vulnérables. La religion pure et sans tache, verset 27, devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. À l'époque, il n'y avait pas de système de sécurité sociale. La sécurité économique du foyer dépendait exclusivement de l'homme. Se trouver orphelin ou veuve, c'était de se trouver en dehors de tout moyen pour pouvoir à nos besoins. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, cela, on le reconnaît. Et merci Seigneur que ça soit développé depuis. Mais toutefois, prêtons attention à aider ceux qui sont dans le besoin réel. D'abord dans cette assemblée, et puis aussi autour de nous. C'est pour cette raison-là, entre autres, que nous soutenons l'œuvre de la CECA 20 au Nord-Kivu, en tant qu'Église. Car il y a de l'aide financière envers des frères et sœurs qui n'ont pas recours, dans cet endroit du Congo, à un système de sécurité sociale. Aider des orphelins, des lépreux, entre autres, c'est une bonne chose à faire. Et merci Seigneur pour le lien que nous avons avec Paulin pour ce travail là-bas sur place. Mais j'aimerais que nous réfléchissions aussi comment cela pourrait s'appliquer ici, chez nous. Car le danger, je pense, pour nous, lorsqu'on voit ce verset 27, c'est qu'on se protège derrière l'excuse en disant « Oh, ben, ça ne s'applique pas de la même manière parce qu'il y a une sécurité sociale ici en Belgique. Donc, comment vous voulez qu'on mette ça en pratique ?» De jour en jour. Donc le danger qu'on ne fait rien. Donc j'essayais juste de réfléchir en disant voici quelques exemples d'aide pratique éventuelle pour des personnes dans le besoin que nous pouvons exercer les uns envers les autres. On peut cuisiner de temps en temps un repas pour quelqu'un qui se trouve malade ou en difficulté. On peut offrir un transport à quelqu'un après une réunion de l'église qui n'a pas d'autre moyen pour se rendre chez eux sinon d'arriver très très tard parce qu'il doit prendre plusieurs mètres ou plusieurs trams, etc. On peut s'occuper des enfants d'une maman monoparentale pour un après-midi, pour une journée. On peut faire quelque chose pour aider ces enfants. On peut accompagner quelqu'un dans le besoin chez le médecin, qui n'est pas en moyen de se déplacer seul. On peut être disponible pour aider une famille avec un babysitting de temps en autre, pour que cette personne puisse se rendre à une étude biblique. Tout cela à titre d'exemple. Non pas que nous devons tout faire, vous allez voir d'autres exemples vous-même. Non pas que nous devons tout faire, mais que nous devons veiller à ce que nous ne sommes pas en train de rien faire. Parce que sinon, on parle bien, mais en pratique, il n'y a pas grand-chose qui a lieu. Le dernier domaine que Jacques soulève à ce stade, c'est une recommandation plus générale à la fin du verset 27, n'est-ce pas? À ne pas se laisser souiller par le mensonge. Au verset 21, il nous exhortait à rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Et maintenant, il précise d'où vient cette souillure. Elle vient du monde. Et je pense ici, nous devons juste faire attention de faire une distinction entre d'un côté le monde et de l'autre côté le monde. Car il y a un sens où le mot monde n'a pas de mauvaise connotation. Le monde, c'est le monde créé par Dieu. Le monde qu'il déclarait bon. Et ce monde-là reste encore bon. Témoin de la bonté de notre Dieu. Le chrétien peut sortir et peut trouver dans le monde de belles choses. Sans qu'il doit se méfier de tout et de n'importe quoi. En dehors du cadre de l'Église. Comme si tout ce qu'il y a dans le monde est mauvais. Non, loin de là, merci Seigneur. Dans sa grâce commune, beaucoup de choses dans ce monde peuvent nous apporter du plaisir. Un plaisir qui est sain, qui est bon. On peut boire un bon vin, on peut manger un beau plat, on peut faire un magnifique exploit sportif, on peut porter un bijou précieux, une belle vue des montagnes lorsqu'on est en vacances, etc., etc. On peut écouter de la bonne musique. Parfois, je pense que les chrétiens donnent l'impression qu'ils n'ont pas le droit de profiter de bonnes choses dans ce monde. Ce n'est pas le cas. Imaginons combien notre appréciation de la vie sera appauvrie si l'on n'écoutait rien que la musique chrétienne. Et j'aime la musique chrétienne, mais il y a de la bonne musique qui n'est pas forcément chrétienne. On peut l'écouter avec reconnaissance. Mais il y a, de l'autre côté, un autre sens pour le mot monde. Le monde qui englobe tout ce qui s'oppose à Dieu, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Le monde fier de sa rébellion contre Dieu, qui cherche à imposer les valeurs qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Le monde qui souhaite attirer des chrétiens à céder à ses désirs, à ses principes. Et bien sûr, vivant dans le monde dans le premier sens nous expose à la tentation de céder au monde dans ce deuxième sens. C'est le danger de vivre une vie partagée, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et Jacques termine donc avec un rappel que l'amitié avec le monde ne peut pas être égale à l'amitié avec Dieu. Une version de foi chrétienne qui fait amitié avec le monde et ses valeurs, c'est une version corrompue, entachée, impure. Alors, comment accueillir la parole? Comment la mettre en pratique? Nous avons vu trois domaines. Et le Seigneur, même encore ce matin, vient de nous mettre devant le miroir, chers amis, ce que nous venons de faire. Qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous vu? Si nous disons que nous n'avons vu que de la beauté, mes amis, nous sommes aveugles. Car le miroir, qui est la parole de la liberté, démontre toujours un aspect de notre propre parcours pour chacun ici présent qui doit changer. C'était lequel pour vous ce matin? Lequel de ces trois domaines devez-vous travailler? Peut-être c'est plus facile de voir ce que le Seigneur doit changer chez les autres. Mais que faut-il changer chez vous? Que dois moi, je dois changer dans mon parcours chrétien? Après avoir vu quelque chose dans le miroir, chers amis, il faut agir. Il faut accueillir la parole. Il faut la mettre en pratique. Je vais prier. Nous ne cherchons pas, Seigneur,